au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Académie dans cette émission Au fil des pages. Savez-vous qu'il existe 6 versions anciennes du texte de Marco Polo, appelées selon les versions le devisement du monde, la description du monde ou encore le livre des merveilles, mais aussi Milione dans les manuscrits toscans. Sur Marco Polo, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il reste encore quelques mystères. Sans doute allons-nous les dévoiler aujourd'hui grâce à mon invité Philippe Ménard. Monsieur Ménard, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne et membre de la prestigieuse Académie des Lincei, alors à Rome, alors ça me fait beaucoup rêver, spécialiste de littérature médiévale, et on vous doit plusieurs ouvrages sur le roman courtois, avec des études sur les fabliaux, les laits, ceux de Marie de France par exemple, sur les contes également, et bien sûr sur la syntaxe de l'ancien français, sur l'étymologie de la langue française, sur son histoire, et depuis un quart de siècle, conduisait des recherches sur Marco Polo et sur quelques grands voyageurs, notamment des évangélisateurs qui sont allés en Chine au XVIe siècle, mais ça fera, je pense, l'objet d'un autre livre. Aujourd'hui, on se penche sur votre magnifique ouvrage « Marco Polo à la découverte du monde » qui est paru aux éditions Glénat, en partenariat avec la Société de géographie. Avant de parler de ce magnifique album, comment se présentent, Monsieur Ménard, les manuscrits, les originaux de Marco Polo?
On pourrait répondre que nous n'avons pas d'original. Nous avons des versions diverses, comme vous l'avez très bien rappelé. Nous avons d'abord un manuscrit en franco-italien. Il est conservé, pour des raisons que l'on ignore, à Paris. C'est le manuscrit français 1116 de la Bibliothèque nationale. Il est très curieux, très remarquable, plus long que les autres, écrit dans une langue très bizarre. C'est une langue artificielle, c'est une langue emplie d'italianisme, où le français est en partie massacré, tout particulièrement la morphologie verbale, ce qui est très fâcheux. Mais il a des mérites très grands. Il n'est pas parfait, il commet des fautes. Alors les Italiens le vénèrent tout particulièrement, et ils l'ont publié à plusieurs reprises. Nous avons aussi une version française à laquelle j'ai voué mes efforts avec la collaboration de 15 savants qui ont bien voulu me suivre. Nous formons une équipe de 16 érudits qui, depuis 2001, avons en cours l'édition du texte français qui est presque terminée. Le sixième et dernier volume est en cours d'achèvement maintenant. Et cette version française, elle a des caractères particuliers. Elle se fonde naturellement sur un manuscrit franco-italien. Il y a de loin en loin, si l'on regarde bien le texte et si on le scrute, j'ai passé une partie de mon temps à traquer les italianismes, il y a quelques traces d'italianisme. Mais le texte est très bien écrit en français. Il y a quelques fautes qui n'apparaissent pas dans la version franco-italienne. Il y a aussi de très bons passages. Et surtout, c'est une version qui est conservée par un nombre de manuscrits tout à fait hors du commun, 18 manuscrits. Donc, 6 sont ornés. Extraordinaire. Il y en a un à Paris, le fameux 2810, que l'on reproduit assez souvent. Alors, ces manuscrits ont été destinés à la haute aristocratie ou à la royauté, et c'est une version particulièrement importante, et puis elle appartient à notre patrimoine culturel français.
Disons-le.
Pourquoi je m'en suis tout particulièrement occupé? La version toscane, c'est une traduction, l'auteur ne le dit jamais, une traduction à partir d'un manuscrit écrit en franco-italien. En effet, Marco Polo voulait que son texte fût écrit en français. Pourquoi le français? Parce qu'à cette époque de l'histoire, au tout début du siècle, fin 13e, début 14e, c'était la grande langue de communication comme l'anglais aujourd'hui. Et plusieurs écrivains italiens ont écrit en français. Nous avons un chroniqueur vénitien, Martin da Canal, qui a écrit une très belle histoire de Venise en français. Nous avons un auteur italien, Brunetto Latini, ou Brunet Latin, comme on dit, qui a écrit une histoire du monde en français aussi. Alors Marco Polo a suivi la même voie. Il avait peut-être aussi des arrière-pensées commerçantes. En tout cas, cette version française, elle est donc en cours de publication scientifique pour la première fois. Nous avons eu des prédécesseurs, nous avons eu un potier, un spécialiste de l'Orient, il était professeur au Langzo, mais il connaissait pas l'ancien français, mais enfin il s'est bien tiré. Il n'a regardé que 3 manuscrits. Nous, nous considérons les 18. Il y a la version toscane, donc, dont je disais un mot, curieuse. Elle est une réduction en partie, mais elle a un très bon texte. Seulement, elle abrège considérablement. Il y a une version vénitienne qui, au paradoxe, n'est pas la meilleure de toutes, bien que Marco Polo fût vénitien.
Vénitien, mais oui.
Alors, elle a beaucoup de réductions, elle déforme, c'est peut-être la plus mauvaise de toutes. Et puis, nous avons 2 versions latines, très différentes l'une de l'autre. L'une qui a été faite par un dominicain, le père Pépin, enfin Fra Pipino, un dominicain de Bologne, assez tôt dans l'histoire. La version française, j'ai pu la dater des années 1310-1311, et la version de Pipino, elle est à peu près de ces années-là. Mais elle déforme le texte en lui donnant une coloration chrétienne et missionnaire. Il porte des jugements critiques sur les religions de l'Asie et il agit à ad maiorem Dei gloriam.
Alors, heureusement qu'on a plusieurs versions. Alors, comme ça, on peut rétablir une sorte de vérité. Est-ce que Marco Polo prenait seulement des notes ou est-ce qu'il y avait un plan ?
Oui, c'est un très grand problème. Alors, il y a une dernière version dont je n'avais pas dit un mot. C'est un manuscrit latin isolé qui se trouve à Tolède en Espagne et qui présente le caractère suivant. Il est très condensé pour certaines parties et puis il apporte 200 innovations, 200 nouveautés, 200 informations supplémentaires sur la Chine et sur l'Asie. On estime légitimement que personne n'a pu l'inventer, c'est pas un copie, c'est pas un remanieur et que vraisemblablement Marco Polo a procédé à des ajouts à un moment ultérieur de l'histoire. Alors, d'autant plus que la plupart de ces additions se trouvent chez un grand voyageur du XVIe siècle, Ramusio, qui avait collecté bien des récits de voyage. Une version de Marco Polo d'après des manuscrits perdus. Alors voilà les 6 versions. Alors on est obligé de penser que Marco Polo a dû prendre des notes, ne serait-ce que pour la toponymie, et puis aussi pour les itinéraires et les notes relatives au commerce, les productions du sol et de l'artisanat. Cela dit, nous ne les avons pas conservés. Et alors, il y a quelques énigmes sur la composition. Et le moment, nous le savons, il nous le dit, c'est en 1298, dans la prison de Gênes. Alors, on est obligé de présenter des conjectures à ce sujet. Parce que c'est curieux d'écrire en prison.
Absolument. Donc, Marco Polo, vous l'avez dit, était vénitien, donc 13e siècle. Mais pourquoi parle-t-on toujours de Marco et non pas de son frère ?
Il y a la famille de Marco Polo qui a fait 2 voyages en Espagne. Pardon, 2 voyages en Asie. Il y a le père et l'oncle, Matteo et Nicolo. Ils ont fait un premier voyage, sans doute partant de Venise en 1254, avant la naissance de Marco Polo, parce que Ramusio nous raconte que lorsque le père est revenu à Venise, il a découvert que sa femme était morte et qu'il avait un enfant. Donc on est fondé à estimer que cet enfant est légitime et qu'il est le fils de Nicolo, Nicolao, comme on dit en italien. Et le père et l'oncle ont fait un premier voyage sur lequel nous avons très peu d'informations. Le devisement du monde nous en dit quelque chose, très bref. Au début, ils ont fait un voyage vers l'Extrême-Orient en allant en Ukraine, dans ce qu'on appelle le domaine de la Horde d'Or. Ils sont allés à Boukhara et à Samarkand, et puis nous ne savons pas après où ils sont allés. Ils ont vu le Grand Khan, en tout cas. Alors, je pense, pour ma part, que le Grand Khan devait se trouver encore à Karakorum. Il n'avait pas établi sa capitale à Pékin, enfin Dadou, comme on dit en chinois, la grande ville, la grande capitale. C'est un petit peu plus tard. Alors, nous n'avons pas d'informations sur la nature de leur expédition. Ils faisaient du commerce, vraisemblablement, sans doute de pierres précieuses, parce qu'à un moment, on nous dit qu'ils ont donné au grand Khan Berké des joyaux. Donner signifie vendre, en fait. Et que l'autre leur a donné beaucoup plus que ce que cela valait.
Donc ça, c'est le père et l'oncle. Et alors après, il y a donc eu Marco et son frère.
Non. Marco, son père et son oncle, les trois sont repartis.
Ah bon.
Le père et l'oncle sont rentrés en 1269. Et puis, ils étaient chargés d'un message du Grand Khan qui demandait des missionnaires. Non pas que le Grand Khan voulût se convertir, mais il estimait, comme peut-être les grands personnages, que tous les dieux peuvent être bénéfiques à celui qui gouverne pour éviter les révolutions, pour éviter les maladies. Et donc, si des prêtres chrétiens venaient, eh bien, on se rendrait compte de leur pouvoir et ils ne pourraient apporter que du bien à l'empereur. Alors, ils étaient donc chargés d'une mission officielle, ces marchands internationaux qui étaient les Polos. La famille Polo, je le rappelle, avait un comptoir à Constantinople et un autre à Soudak en Crimée. Donc, c'était des commerçants importants de l'Europe médiévale. Et ils sont revenus à un mauvais moment. En 1269, il y avait une vacance du Vatican. Alors, ils ont attendu 2 ans. Le pape n'était pas encore élu. Alors, ils se sont mis à repartir avec le fils. Et le fils avait 15 ans à leur retour. Il en avait 17 lors de leur second voyage. Alors, ils sont partis vers Saint-Jean d'Acre et c'est là qu'ils ont trouvé celui que Marco Polo appelle à tort le légat du pape, enfin un personnage haut placé, un Italien, Tedaldo, pas Tebaldo ni Teobaldo, un peu curieux comme souvent en Italie, Tedaldo Visconti, qui venait d'être élu pape et qui a pris le nom de Grégoire X. Alors, à ce moment-là, ils ont pu trouver sa sainteté, recevoir des messages de lui, être accompagnés par 2 ecclésiastiques qui ont pris peur très vite, arrivés en Arménie, qui sont revenus. Les trois marchands sont donc partis en continué leur voyage à travers la Perse.
Alors justement, le trajet, la route en fait, peut-être le premier voyage n'était-il pas identique au second, vous avez dit qu'effectivement. Alors le second voyage, quelle route ont-ils prise, par où sont-ils passés?
Nous connaissons très bien ce second voyage, puisque Marco Polo suit à peu près l'itinéraire avec quelques digressions. Comme il est naturel chez un voyageur, ils ont traversé de part en part la Perse. Et donc, ils sont allés en Petite Arménie, en Cilicie, ensuite dans la grande capitale mongole, puisque la Perse était sous le régime mongol, à Tabriz, et ils ont descendu jusqu'au grand port d'Ormus. Alors, collègue Jacques Herz, qui a d'ailleurs parlé sur Canal Academy il y a quelques années, ont estimé que le retour de Marco Polo et de son père et de son oncle à travers la Perse lors du premier voyage était invraisemblable. Je ne le crois pas pour ma part. Et les spécialistes de la Perse, il y en a plusieurs à travers le monde, qui ont étudié le voyage de Marco Polo, ne l'ont pas contesté. On peut parfaitement trouver légitime ce retour, si long qu'il soit. En effet, Marco Polo nous dit qu'à Ormuz, la famille Polo a découvert que les navires arabes qui faisaient le voyage entre le cap Mascate et l'Inde, ou entre Ormuz et l'Inde, n'avaient pas de clous, ils n'étaient pas cloutés, c'était des planches qui étaient tenues par des lianes, et que ces navires étaient très fragiles, il leur arrivait de faire naufrage dans la grande mer de l'Inde. Alors on peut penser que cette notation très précise sur les navires que Marco Polo nous donne en 6 ou 7 lignes sur leur confection a dû jouer un rôle dans la décision de repartir par voie de terre. C'est infiniment plus long. On mettait un mois et demi quand on était poussé par la bonne mousson. Sinon, on ne pouvait pas y aller, au demeurant.
Long et sans doute dangereux, je suppose, à l'époque.
Mais il y avait beaucoup de bateaux arabes qui ont fait le commerce.
On est au XIIIe siècle, oui. Ça nous paraît quand même très loin.
Oui, oui.
Alors, quand Marco Polo arrive, la famille en Chine, d'abord, combien de temps va-t-il y rester?
Il va rester 17 ans en Chine.
17 ans.
Nous l'avons laissé en Perse. Ils vont remonter toute la Perse, traverser l'Afghanistan en passant par quelques villes célèbres comme Balkh, en passant après par le Badakhshan où se trouvent les mines de lapis-lazuli et de rubis-balais, du Balachan, Badakhshan, et puis traverser de toute la Perse, toute la Chine par la route des caravanes, la route sud, celle qui descend de Kashgar et qui va à Khotan et qui continue normalement jusqu'à Xi'an, mais ils ne sont pas allés à Xi'an puisqu'ils avaient rendez-vous avec le grand Khan. Et dès lors, ils ont remonté la boucle du fleuve jaune pour aller dans une ville de Mongolie où le grand Khan avait établi son palais d'été qui s'appelle Shangdu, qui a disparu aujourd'hui. Il n'y a plus que des pierres au ras du sol. Les Ming, lors de l'instauration de leur empire en 1368, ont tout détruit. Oui.
Alors, ce grand Khan, justement, Kubilai, donc le grand Khan que rencontre Marco Polo, Y consacre-t-il plusieurs chapitres ? C'est un personnage, je suppose, fascinant. Comment traite-t-il le sujet, Marco Polo, dans ses manuscrits ?
Marco Polo est fasciné par ce personnage hors du commun, qui était le plus grand souverain du monde, le plus puissant. Son empire s'étendait sur des milliers et des milliers de kilomètres. La Chine, de part en part, de l'ouest à l'est, représente 6000 kilomètres, au moins. On dit que la Grande Muraille s'étend sur 5000 kilomètres. Il allait de la Mongolie, puisque Karakorum était encore en sa possession, jusqu'à la Chine du Sud, jusqu'aux confins de la Birmanie. Il avait tenté de s'emparer du Japon. Il avait envoyé des en Birmanie. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et même à Sumatra. Alors, c'est un personnage hors du commun qui a réussi à conjuguer la violence, la force, la puissance des guerriers mongols avec le raffinement de la civilisation chinoise. Et quand il a instauré sa dynastie en Chine, il est devenu quasiment un dieu. Au lieu d'habiter la yourte en feutre, il a habité des palais somptueux. Un changement complet. Il a réussi à régir, à gouverner cet empire. Alors Marco Polo nous donne des évocations très intéressantes du personnage. Il ne pas très longtemps sur sa polygamie, il la signale au passage, sur le grand nombre de ses concubines. Mais les fêtes l'ont passionné, les chasses du souverain, et puis les curiosités pour un occidental. Par exemple, la monnaie de papier, la monnaie en écorce de mûrier, et puis l'organisation des postes impériales, prodigieuse par rapport aux postes misérables dont on bénéficiait, dont les grands personnages bénéficiaient en Occident. Ils envoyaient un messager, tandis que l'empereur, qui redoutait toujours des révoltes très loin de la capitale de son empire, depuis longtemps d'ailleurs, l'empire des Song l'avait déjà fait, et avant l'empire des Tang, avait un système postal que Kubilai Khan a développé, avec des relais de poste tous les 20 qui kilomètres si possible, dans lesquels se trouvaient 30 à 40 chevaux frais. Il y avait peut-être 20 à 30 personnages prêts à courir, soit à pied, soit à cheval, et parfois à d'autres chameaux aussi. Marco Polo ne le dit pas. Ordonnance nous dit, en cas de besoin, on montait sur des dromadaires. Donc ça revient aux chameaux, cela. Mais il fallait que les lieux s'y prêtent. Dans le désert, les chevaux ne pouvaient pas traverser les chameaux. Et cette organisation extraordinaire, l'entretien de ces relais de poste était à la charge des régions, sauf les relais de poste qui se trouvaient dans des endroits très dangereux et où c'était à la charge de l'empereur. Alors, nous avons des informations à ce sujet, heureusement, dans les archives chinoises qui nous montrent combien l'empereur a créé des routes, parce que tout est solidaire. Si on ne crée pas de routes,
les postes ne marchent pas. Philippe Ménard, vous avez été heureux de ce livre. C'est un livre dont les photographies, les reproductions, la qualité du papier, la typographie est extrêmement soignée. Donc, ça fait un très beau livre et je dirais que le texte que vous avez rédigé n'est pas évidemment le moins intéressant car on y apprend tout et l'essentiel. Tout vraiment, ou vous n'avez peut-être pas pu tout aborder.
J'ai essayé pour le grand public de suivre le cheminement de Marco Polo et son itinéraire, tout en présentant un certain nombre de réflexions, d'observations, éventuellement d'indications sur les informations qui viennent de seconde main. Il est légitime pour un voyageur de nous apporter quelques précisions sur des lieux où il n'est pas allé. Il n'est pas allé à Karakorum, il n'est pas allé à Samarcande, il n'est pas... Ouais. Il n'est pas allé sur la côte orientale de l'Afrique. Alors, les images sont certes très belles. J'en aurais souhaité d'autres, mais je ne vais pas dire ce que j'aurais souhaité. C'est pas le lieu ici.
En tout cas, il y a non seulement de belles images et de belles reproductions de ces enluminures dont vous parliez tout à l'heure, mais il y a aussi des cartes. Et heureusement pour nous, pauvres lecteurs, parce que suivre le trajet de Marco Polo, en lisant le livre, justement, Le devisement du monde, dans cette édition critique et savante que vous avez publiée chez Drose, en lisant ce livre, c'est difficile de suivre quand il n'y a pas la carte. Mais dans ce grand livre de Glénat, il y a des cartes, alors on est tout à fait satisfait. Philippe Ménard, est-ce que pour vous, les trouvailles archéologiques ont confirmé les dires de Marco Polo ?
Oui, madame, je vous remercie de cette question parce que c'est un élément très important pour justifier le voyage de Marco Polo. De très grands explorateurs, Sven Hedin, le Suédois, Sir Orell Stein, le Hongrois devenu anglais et qui a rapporté à la au British Museum et à la British Library une foule de matériaux tirés de ses explorations dans le désert du Taklamakan, près de Rotan notamment et dans d'autres endroits. Paul Pellieu aussi, le grand sinologue français.
L'Académie des inscriptions et belles lettres, on ne va pas manquer de le dire.
De l'Académie, en effet, sont partis en Chine avec Marco Polo dans leur bagage. Et je me rappelle avec grand plaisir d'avoir vu dans les ouvrages de Sir Orell Stein, volumineux, ce sont presque des in-folios, très lourds à porter, qu'il confirme nommément les précisions apportées sur telle ville, sur Chachi, ou sur tel autre endroit de la route de la soie où il est allé lui-même.
Alors,
il a fait des découvertes.
Et vous, Philippe Ménard, on a envie de vous poser cette question. Avez-vous réalisé ce rêve? Avez-vous marché dans les pas de Marco Polo?
Oui, madame, j'y suis allé à deux reprises, en 2001 et en 2007, en septembre et de début d'octobre de cette dernière année, où j'ai accompagné un voyage sur la Silk Road. J'avais choisi, non pas la route du Sud, parce qu'elle est malheureusement moins intéressante aujourd'hui, mais certaines grandes villes de la route du Nord, dont Marco Polo parle aussi. Et puis, on voit là des paysages saisissants, et la Chine profonde, la Chine de l'intérieur, la Chine musulmane aussi, puisque c'est la Chine de l'Ouest. Et j'en garde un souvenir émerveillé, mais en même temps, un souvenir nuancé. Je suis toujours ébahi de conscience que Marco Polo est revenu vivant d'un voyage aussi dangereux. D'un voyage qu'il a mené dans les hauteurs du Pamir. Je suis allé dans le Pamir, mais je me suis arrêté à 3900 mètres. Marco Polo est monté à 5600 mètres en traversant en biais vraisemblablement le Pamir pour arriver à Kashgar, la respiration est très difficile, comme vous le devinez, où l'oxygène est rare, où le feu chauffe à peine, il le dit d'ailleurs dans un passage. Il est allé aussi à travers des déserts.
Un vrai aventurier, vraiment.
Oui. Alors, je pense qu'il devait voyager de nuit, comme très souvent le font les caravanes, pour éviter la chaleur épouvantable de la journée. Dans des caravanes très nombreuses, les trois voyageurs occidentaux étaient mêlés à d'autres voyageurs et à des soldats sans doute pour les protéger.
Et quand il est revenu, quel accueil lui a-t-on fait alors à Venise ?
Nous ne le savons pas, il y a des reproductions et des rêves qui ont été avancés par Ramuzio qui nous dit qu'on ne l'a pas reconnu, qu'ils étaient très mal habillés et puis qu'ils ont présenté des pierres précieuses et que soudain on les a vus. En fait, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Enfin, ils ont repris possession de leurs biens, de leur maison, de leur résidence qui n'existe plus aujourd'hui. On montre toujours à Venise un palazzo de la famille Polo, mais il a brûlé, celui des Polo. Il a été reconstruit, mais enfin, ça nous donne une idée de l'implantation, malgré tout. De même que la tombe de Polo a disparu.
En tout cas, si vous voulez rêver de Marco Polo et de ses voyages à la découverte du monde, Philippe Ménard aux éditions Glénat, en partenariat avec la Société de Géographie. Et peut-être, Monsieur Ménard, aurons-nous l'occasion de parler d'autres aventuriers, puisque je sais que vous travaillez sur d'autres grands voyageurs. Alors j'espère qu'on aura le plaisir.